Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mercredi 12 mars 2025. Voici le sommaire. Des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé M23 se tiendront à Luanda dans les prochains jours, annonce la présidence angolaise. En Côte d'Ivoire, 25 formations d'opposition adhèrent à une charte pour former la coalition pour l'alternance pacifique.
Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a en son sein quand même une grande partie du PDPI-RDA. Elle a des partis qui sont tous des satellites des croissances du CPAPI.
Le décryptage de l'analyste politique Fernand Dédé à suivre dans la partie magazine. Levée de bouclier au Tchad après les recommandations d'un groupe de femmes suggérant que le domicile conjugal revienne à la femme et aux enfants en cas de divorce non motivé. L'Ukraine soutient une proposition américaine de cesser le feu de 30 jours avec la Russie après des pourparlers à Jeddah en Arabie Saoudite. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Jean-Roger Billon et les sports présentés par Yacouba Ouidraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Des négociations directes entre la République démocratique du Congo et le groupe armé M23 se tiendront à Luanda dans les prochains jours, a annoncé hier la présidence angolaise à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Plus de détails avec Eddy Isango.
La date n'est pas précisée dans le communiqué que la présidence de l'Angola a publié après la rencontre hier à Luanda entre João Lourenço et son homologue congolais Félix Tshisekedi. Luanda y annonce prendre des contacts avec les M23 afin que les délégations de la RDC et du groupe rebelle puissent mener des négociations directes. Négociations qui se tiendront à Luanda dans les prochains jours en vue de parvenir à une paix définitive. Lundi, João Lourenço avait reçu les évêques catholiques et protestantes de la RDC qui mènent des négociations parallèles en vue d'un pacte de paix dans leur pays. Le M23 a repris avec intensité ses offensives dans l'est de la RDC après les ratés de la signature d'un accord de paix entre Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame en décembre dernier. Les rebelles ont pris des grandes portions de l'est, dont les villes de Goma et Bukavu. 4000 soldats rwandais les appuient, selon les experts de l'ONU. Plus de 7000 personnes ont trouvé la mort dans l'offensive depuis le début de l'année, selon Kinshasa.
Le principal opposant mozambicain Venancio Mondlane a annoncé mardi avoir été placé sous contrôle judiciaire sans savoir de quel crime il est accusé à la sortie d'une audition de près de 10 heures par le parquet dans la capitale Maputo. Malheureusement, on a passé toutes ces heures sans que je puisse dire de quoi j'étais accusé, a affirmé à la presse l'ex-chroniqueur politique qui avait revendiqué la victoire aux élections d'octobre, suivie de plusieurs mois de manifestations de l'opposition. Je ne peux pas me déplacer sans en avertir le bureau du procureur. Je ne peux pas sortir plus de 5 jours de chez moi, a-t-il expliqué. Les députés sénégalais ont adopté mardi une loi sur l'assistance aux détenus, notamment les migrants, et le transfèrement mutuel des condamnés entre le Sénégal et le Maroc. Ce texte vise à rapatrier les Sénégalais emprisonnés au Maroc, principalement pour immigration irrégulière et divers délits. Jean-Roger Billon.
La loi vise à faire transférer au pays de nombreux jeunes Sénégalais convoyeurs ou candidats à l'émigration irrégulière et emprisonnés au Maroc qu'ils traversent régulièrement en tentant de rejoindre l'Europe par la mer, selon un document du gouvernement du Sénégal. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yacine Fall, a chiffré à 340 au total le nombre de Sénégalais actuellement détenus dans le royaume chérifien. Parmi eux, 38 Sénégalais, dont 10 condamnés à des peines allant de 3 à 25 ans, ont déjà exprimé leur souhait d'être transférés au Sénégal. Signée en 2004, la convention doit encore être ratifiée et promulguée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avant son entrée en vigueur. Cette initiative renforce les liens entre Dakar et Rabat qui coopèrent dans divers domaines comme l'énergie et le tourisme. La loi a été votée à l'unanimité par les députés lors d'une séance plénière mardi matin.
Le chef des forces armées ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, a annoncé mardi avoir déployé des forces spéciales pour sécuriser Juba, la capitale du Soudan du Sud, et soutenir le président Salva Kiir, alors que le pays connaît d'inquiétantes tensions. Interviewé plus tard dans la journée par un média local, le ministre sud-soudanais de l'information d'information Michael Makuelwet a démenti la présence des forces ougandaises. Ces forces ne sont pas là, a-t-il dit, selon un article publié par iRadio. L'Ouganda, qui avait envoyé des troupes au Soudan du Sud en 2013 pour soutenir le gouvernement du président Salva Kiir avant de s'en retirer officiellement à la fin 2015, a régulièrement été accusé d'ingérence dans le plus jeune pays du monde. Au Tchad, le gouvernement a pris ses distances avec une recommandation visant à protéger les femmes en cas de divorce non motivé. Cette proposition, suggérant que le domicile conjugal revienne à la femme et aux enfants, a suscité de vifs débats dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nani Talani.
Cette recommandation portée par la ministre d'État en charge des femmes, Amina Prissy Longo, proposait d'introduire une loi stipulant qu'en cas de divorce non motivé, le domicile conjugal revient à la femme et aux enfants. Il s'agit d'une simple recommandation émanant d'un travail collectif dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne et non d'une décision étatique, a précisé le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Par conséquent, cette recommandation n'engage en aucune manière le gouvernement, a-t-il souligné tout en appelant à la sagesse et à la retenue. Chaleureusement accueillie par les femmes, cette recommandation a suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Une bonne femme ne cherche pas à vivre célibataire dans une grande maison avec des enfants sans père à côté, fustige sur Facebook l'avocat Alec Angobé. Les femmes émancipées peuvent construire leur propre maison, pas accaparer celle de leur mari, dit un autre commentaire. Certains hommes s'indignent à tort, prétendant que la loi chercherait à les spolier en donnant leur maison à leur ex-femme, estime l'ancien chef de la diplomatie tchadienne, Abdrahmane Koulamala.
En Afrique du Sud, un accident de bus près de l'aéroport de Johannesburg a fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés mardi, ont indiqué l'agence de sécurité routière sud-africaine et des responsables municipaux. Le bus transportait une cinquantaine de passagers se rendant au travail lorsqu'il s'est renversé sur une autoroute très fréquentée près de l'aéroport international de Johannesburg, selon ses sources. Les causes de l'accident n'étaient pas connues dans l'immédiat. Un rescapé de l'accident a indiqué à la chaîne de télévision Newsroom Africa que le bus semblait rouler à vive allure. En dépit d'un réseau routier de qualité, l'Afrique du Sud est confrontée à un taux élevé de mortalité routière, principalement dû à la vitesse, aux conduites imprudentes, aux véhicules non conformes et au non-port de la ceinture de sécurité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine soutient une proposition américaine de cesser le feu de 30 jours avec la Russie. Les États-Unis acceptent de leur côté de lever les restrictions sur l'aide militaire et l'échange de renseignements, selon une déclaration commune faite mardi après des pourparlers à Jeddah en Arabie Saoudite. Yacouba Ouédraogo.
L'Ukraine s'est déclarée prête à accepter la proposition américaine d'instaurer un cessez-le-feu immédiat et provisoire de 30 jours qui peut être prolongé par accord mutuel des parties et qui est soumis à l'acceptation et à la mise en œuvre simultanée par la Fédération de Russie. C'est ce qui ressort d'une déclaration conjointe. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que l'Ukraine acceptait des négociations immédiates avec la Russie, absente des discussions, et que la balle était maintenant dans le camp de Moscou pour accepter une trêve. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré pour sa part que les États-Unis doivent convaincre la Russie d'accepter le cessez-le-feu. Washington dit lever immédiatement la suspension sur l'échange de renseignements et reprendra l'aide à la sécurité de l'Ukraine, indique la déclaration commune. Les États-Unis et l'Ukraine sont aussi tombés d'accord pour conclure dès que possible un accord sur les minerais ukrainiens, selon la déclaration finale.
Le président américain Donald Trump a dit mardi qu'il allait parler à Vladimir Poutine, sans doute cette semaine après que l'Ukraine a annoncé soutenir la proposition américaine de cesser le feu de 30 jours avec la Russie. « Je pense, oui », a ajouté le président américain lorsqu'une journaliste l'a interrogé pour savoir si la conversation avec son homologue russe aurait lieu dans la semaine. « Bien sûr », a-t-il ensuite répondu à un reporter qui lui demandait si le président ukrainien Volodymyr Zelensky serait invité à revenir à la Maison-Blanche après une récente rencontre extrêmement conflictuelle. La Chambre américaine des représentants en majorité républicaine a adopté mardi un texte budgétaire provisoire afin d'éloigner à septembre la perspective d'une paralysie de l'État fédéral, le fameux shutdown que Donald Trump souhaite éviter. Le texte approuvé à la Chambre basse avec 217 voix pour, dont un démocrate et 213 voix contre, se dirige désormais vers le Sénat où il devra être également adopté avant la date limite de vendredi soir minuit. Les États-Unis vont déployer plus de 600 militaires supplémentaires à la frontière avec le Mexique, a annoncé mardi l'armée américaine, alors que l'administration Trump renforce les mesures de lutte contre l'immigration clandestine. Il va porter le nombre total de militaires déployés ou devant être déployés à la frontière avec le Mexique à environ 9600. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Jean-Roger Bion.
La République démocratique du Congo a suspendu pour 4 mois ses exportations de cobalt, un minerai essentiel aux batteries des véhicules électriques. Cette mesure annoncée par le gouvernement vise à stabiliser un marché en crise où les prix du cobalt ont chuté de 75% en 3 ans, atteignant leur plus bas niveau depuis 8 ans. Premier producteur mondial, la RDC fournit à elle seule 76% du cobalt extrait dans le monde. Le nouveau gouvernement ghanéen prévoit d'importantes réductions des dépenses en 2025 pour relancer l'économie, a annoncé le ministre des Finances, Kassiel Attoh-Ferguson. Il a présenté des chiffres de déficit et de dette plus élevés que prévu, notamment dans les secteurs du cacao et de l'énergie. Le Ghana sort de sa plus grave crise économique en une génération, aggravée par des difficultés de remboursement de la dette et une mauvaise gestion. Au Nigeria, l'agence anticorruption récupère près de 500 millions de dollars en 1 an, un montant record depuis la création de la Commission nigériane de lutte contre les crimes économiques et financiers, EFCC, en 2002. L'organisme a également obtenu plus de 4111 condamnations pénales, le chiffre le plus élevé depuis sa création. Le Nigeria est confronté depuis des décennies à une corruption endémique qui freine son développement économique.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Aliou Cissé est officiellement le nouveau sélectionneur de la Libye.
Oui, l'annonce a été faite par la Fédération libyenne de football. Aliou Cissé prend donc les rênes de l'équipe libyenne jusqu'en 2027 et sera présenté demain jeudi à Tripoli. L'ancien international sénégalais de 48 ans a remporté la CAN en 2022 avec son pays. Mais il a été éliminé avec le Sénégal en 8e de finale de la dernière CAN l'année dernière en Côte d'Ivoire. Il a aussi participé à 2 phases finales de Coupe du Monde, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar.
En Europe, suite ce soir des matchs retour des 8e de finale de la Ligue des Champions.
Oui, le Real Madrid compte 1 but d'avance sur son grand rival madrilène l'Atlético, battu 2-1 à l'aller. Les partenaires d'Antoine Griezmann doivent donc remonter 1 but de retard, mais aussi 70 ans d'histoire. Les Colchoneros n'ont jamais éliminé leur grand rival dans une confrontation européenne, qui les ont battus aussi 2 fois en finale en 2014 et en 2016. Un autre duel se joue à Lille contre le Borussia Dortmund après le 1-1 à l'aller. Les Dogs visent une première participation en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund, finaliste l'année dernière, peut compter sur son Guinéen Serou Guirassy, 9 ans après son départ de Lille. Eh bien, l'attaquant de Dortmund dit espérer face au LOSC que ce match soit un mauvais souvenir pour les Lillois. Avec 10 buts, le Guinéen est le 2e meilleur buteur de cette campagne de Ligue des Champions, derrière le Barcelonais Rafinha. Les autres 8e de finale sont moins indécis. Arsenal est déjà virtuellement qualifié après sa victoire 7-1 à Eindhoven face au PSV. Aston Villa s'était imposé 3-1 face au Club Brugge et voudra conforter son avance à domicile.
Et puis, fin de suspension pour Paul Pogba.
Paul Pogba peut à nouveau reprendre la compétition avec la fin hier de sa suspension de 18 mois pour dopage. Suspendu 4 ans après un contrôle positif au métabolite non endogène de la testostérone, à l'issue du match Juventus-Udinese le 20 août 2023, Paul Pogba a vu sa sanction ramenée à 18 mois par le tribunal arbitral du sport. Le TAS a estimé que l'ingestion de la substance n'était pas intentionnelle et résultait d'une prise de compléments alimentaires prescrite par un médecin en Floride. Installé à Miami, Paul Pogba est désormais prêt à rebondir. Son compte Instagram, toujours suivi 62,7 millions de followers, multiplie les photos d'entraînement intensif
avec quelques clichés de mode, une autre de ses passions, signe de son retour au moins médiatiquement, en attendant de pouvoir reprendre le fil de sa prestigieuse carrière.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. En Côte d'Ivoire, 25 formations d'opposition ont adhéré à une charte pour former la coalition pour l'alternance pacifique. Parmi elles, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Tidiane Thiam, le mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Gbagbo, le Front populaire ivoirien de Pascal Affinguessan ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé. Cette coalition demande des réformes électorales avant la présidentielle d'octobre prochain. Pour une analyse, Yakuba Ouédraogo a joint à Abidjan l'analyste politique Fernand Dédé.
L'opposition demande la révision de la liste électorale en 2025 parce que la loi électorale en Côte d'Ivoire prescrit que chaque année, il faut une révision de la liste électorale. Et donc en 2024, il y a eu une révision de la liste électorale. Là, actuellement, le traitement de cette liste est en cours. La commission électorale a défini son agenda. À partir du 7 mars, la liste provisoire sera affichée, ouvrant ainsi le contentieux. Et donc, malgré cela, l'opposition exige que la commission s'en tienne à la loi qui veut que chaque année, il y ait une révision de la liste électorale. La commission électorale en est consciente, mais elle dit, dans l'état actuel des choses, compte tenu des contraintes, elle ne peut pas faire de révision électorale. Peut-être elle pourra le faire après la présidentielle. Le deuxième nœud, c'est la commission elle-même qui est en cause. Elle est mise en cause par les partis d'opposition. Ils estiment que les membres de cette commission, le président notamment, prend des positions qui semblent à être des positions partisanes et par conséquent l'éloignent de la neutralité qui aurait dû être la sienne. Tout ce débat est suivi évidemment par le parti au pouvoir qui lui estime que la commission fait son travail et qu'il faut se préparer pour aller aux élections en octobre 2025.
L'un des grands absents de cette coalition, c'est le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Que vaut cette coalition en l'absence du PPACI face au RHDP?
Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a en son sein quand même le grand parti du PDCI-RDA. Elle a des partis qui sont tous des satellites des croissances du PPACI. Évidemment, on se pose beaucoup de questions par rapport au PPACI. Le président Laurent Gbagbo a été le premier à lancer un appel l'année dernière à Benoît pour demander à tous les partis qui souhaitent se coaliser pour obtenir le départ du pouvoir actuel de se mettre ensemble. On est un peu étonné, mais pas surpris. On est un peu étonné que le PPACI, en ce moment-là, ne soit pas dans cette coalition qui se met en place.
Alors justement, parlant toujours du PPACI, on sait que son leader, Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, est donc pas éligible, jusqu'ici en tout cas. Peut-être qu'il décide de mener la lutte seul, au lieu de se joindre peut-être à la coalition.
Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'à 8 mois des élections, ni Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudé, ni Soro Diom ne sont pour l'instant inscrits sur la liste électorale. C'est un gros problème. Aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition réclament leur réinscription sur la liste électorale. Le président du PDCI, coordonnateur de Cap Côte d'Ivoire, disait hier il faut des élections inclusives, ouvertes à tous ceux qui ont la volonté de se présenter à la présidence de la République.
Fernand Dédé, analyste politique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En RDC, dans une petite usine de Bukavu, des ouvriers confectionnent des biscuits dans le cadre d'une initiative locale visant à lutter contre la malnutrition aggravée par le récent conflit et les pillages. La prise de Bukavu par les rebelles du M23 en février a entraîné un pillage généralisé des entrepôts d'aide, y compris un dépôt du Programme alimentaire mondial contenant 6800 tonnes de produits alimentaires humanitaires. Plus de détails avec Dili Diko.
L'ONG locale Kesho Congo fabrique des biscuits nutritionnels appelés Masoso pour faire face à la malnutrition chronique qui touche les enfants dans l'est de la RDC. Elle a récemment augmenté sa production pour combler le vide laissé par l'aide humanitaire pillée ou volée. Écoutons le docteur Adolphe Niakassane, directeur de Kesho Congo.
Nous produisons des intrants nutritionnels pour non seulement prendre en charge la malnutrition avec des produits locaux, des solutions locales et durables, mais également pour pouvoir répondre à la crise humanitaire actuelle. Nous produisons donc des intrants qui sont distribués aussi bien dans les centres de santé pour la prise en charge de la malnutrition aiguë modérée, mais également la prévention de la malnutrition chronique. Mais également, nous répondons là où il y a besoin.
L'organisation s'approvisionne en ingrédients auprès de milliers d'agricultrices locales, utilisant du maïs, du sorgho et de la farine de soja pour créer les biscuits enrichis. À nouveau, le docteur Adolphe Niakassane, directeur de Kesho Congo.
Le taux de malnutrition chronique au Sud Kivu est de 48%. Cela veut dire à peu près un enfant sur deux souffre de malnutrition chronique au Sud Kivu. C'est un fléau. Il faut considérer qu'avec la situation actuelle, eh bien, ce sont des chiffres qui vont beaucoup augmenter. Et donc, il est important qu'il y ait des organisations qui s'engagent à pouvoir travailler pour apporter des solutions.
Au centre de nutrition Kitumaini à Bukavu, des enfants ont reçu des biscuits Masoso. Les voir manger est un soulagement pour l'établissement qui lutte pour maintenir ses programmes d'alimentation en temps de conflit. Nadine Bakenga est la directrice du centre de nutrition Kitumaini.
Pendant cette période, nous avons beaucoup de difficultés, voire la guerre. Les enfants venaient chaque jour prendre la bouillie ici, mais voir les moyens pour le moment. Les enfants ont la difficulté de prendre la bouillie chaque jour. Mais aujourd'hui, nous venons de recevoir un don de Kesho Congo, des biscuits à base de masoso et la farine. Ça va beaucoup nous aider. Vraiment, on dit merci pour notre organisation partenariat.
Cette initiative des biscuits Masoso intervient alors que la situation dans l'est de la RDC continue de se détériorer. L'ONU estime que les avancées du M23 ont entraîné le déplacement d'environ 500 000 personnes depuis janvier. La réponse internationale à la crise a inclus des sanctions américaines à l'encontre de responsables rwandais pour leur soutien présumé au M23 et la Grande-Bretagne a suspendu une partie de son aide au Rwanda. L'Union européenne est en train de revoir l'accord qu'elle a conclu avec Kigali sur les minerais stratégiques.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Soudan, certaines personnes réfugiées dans les camps de déplacés de l'État de Guédaref disent avoir besoin de nourriture et de soins médicaux. Une réfugiée tchadienne affirme que la vie à l'intérieur du camp est difficile pour sa famille. Reportage de John Tanza à Omdurman, le récit est de Michel Joseph.
Kaltoum Zakaria Ali, qui a fui le Tchad pour se réfugier au Soudan dans un camp de déplacés à Guédaref, a du mal à nourrir ses enfants. Sa fille d'un an n'a pas mangé depuis le matin. En plus d'être déplacée par le conflit soudanais, Kaltoum a un autre problème. Un médecin de la clinique mobile de l'Association des médecins américano-soudanais s'occupe de sa santé mentale. Elle dit que la vie dans le camp est très difficile pour elle et ses quatre enfants.
Wallahi, ma situation est difficile. Parfois, je dois mendier. Et ceux qui ont de l'argent me donnent 100 livres soudanaises. D'autres me donnent 200 livres soudanaises. Et je suis en mesure de donner le petit déjeuner à mes quatre enfants.
Les Soudanais et les étrangers qui ont fui les combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide disent qu'ils sont confrontés à des difficultés dans les camps de personnes déplacées de l'État de Guédaref. Fitine Awad Ibrahim est une Soudanaise, mère de quatre enfants, qui a fui Khartoum pour Guédaref. Elle dit que trouver de la nourriture pour ses enfants est un défi quotidien.
Cela fait 4 mois que nous sommes arrivés ici. Et depuis décembre de l'année dernière, nous n'avons reçu qu'une seule fois des rations alimentaires. Imaginez une mère de 6 à 7 enfants qui n'a reçu qu'une seule ration alimentaire et qui n'a pas travaillé pendant 3 mois. Nous avons des enfants mal nourris et vous les avez vus lorsque vous êtes rentrés dans le camp. Nous avons besoin de soins de santé pour les enfants et les personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques.
Lorsque le conflit a éclaté dans la capitale soudanaise, Khartoum, il y a 2 ans, les familles vivant dans les villes jumelles voisines d'Omdurman et de Bari ont fui vers d'autres états du pays en quête de sécurité. Madame Ibrahim explique que les maires de son camp sont confrontés à de multiples difficultés, notamment le manque de nourriture et de soins médicaux.
Nous, les mères, n'avons pas grand-chose parce que nous n'avons pas d'emploi qui nous permette de subvenir aux besoins de nos enfants. Ce sont des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés ici.
Certaines femmes des camps de déplacés ont fui sans leur conjoint et d'autres sont devenues veuves à cause du conflit. Madame Ibrahim raconte qu'elle a fui Khartoum pour Guédaref avec ses enfants et qu'elle n'a pas été en contact avec son mari depuis que la guerre a éclaté.
Mon mari n'est pas là et j'ai un enfant malade qui a un problème. On lui a diagnostiqué des rhumatismes. Son état s'aggrave et la maladie a atteint son cœur. Il doit faire des examens. Même moi, je suis malade et je n'ai pas d'argent pour faire un bilan de santé parce que les associations ne nous aident pas.
Le conflit soudanais, qui a éclaté en avril 2023, a déplacé des milliers de familles de la capitale Khartoum et des villes jumelles de Bari et Omdurman.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les partisans de la ligne dure en Israël ont salué le plan du président Donald Trump pour l'avenir de la bande de Gaza qui prévoit le départ d'une grande partie des 2,3 millions de Palestiniens de ce territoire. Ils affirment que le fait d'encourager l'émigration ne viole pas le droit international, mais les Palestiniens ont rejeté ce plan. De Jérusalem, le reportage de Linda Grashtein, récit Yacouba Ouedraogo.
Le groupe d'extrême droite au Parlement israélien Terre d'Israël s'est réuni dimanche lors d'une session spéciale pour approuver le plan du président américain Donald Trump visant à déplacer 2,3 millions de Palestiniens hors de la bande de Gaza. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré qu'il mettait en place une autorité de migration au sein du ministère de la Défense afin d'encourager les Palestiniens à quitter Gaza.
Chaque shekel que nous investirons pour encourager l'immigration nous coûtera moins cher que de nous battre encore et encore. Le budget ne sera pas un obstacle à ce plan. Il ne s'agit pas d'un plan comme les autres. Il s'agit d'un potentiel de changement historique au Moyen-Orient et en Israël.
Simcha Rotman, membre du Parlement, estime que ce plan de relocalisation est plus réaliste que celui proposé récemment par l'Égypte et la Ligue arabe, qui permettrait à l'autorité palestinienne de gérer Gaza sans désarmer le Hamas, désigné par les États-Unis comme un groupe terroriste.
Les gens disent qu'il faut réhabiliter le Hamas, qu'il faut lui donner toutes les chances de reconstituer ses forces. Comment se fait-il que cette solution soit réaliste? Ce n'est pas le cas. C'est dangereux pour Gaza, c'est dangereux pour les habitants de Gaza et c'est dangereux pour la paix dans cette région.
Les juristes d'extrême droite, présents à la réunion du caucus de Terre d'Israël, affirment qu'encourager l'immigration à partir d'une zone de guerre ne constitue pas une violation du droit international. Eugene Kontorovitch est un juriste du Kohler Policy Forum.
Nous savons qu'en temps de guerre, il y a des réfugiés, des millions de réfugiés en Afghanistan, de la guerre en Syrie, des millions de réfugiés, de la guerre en Ukraine, des millions de réfugiés. Rien de tout cela n'est appelé nettoyage ethnique. La création de ces réfugiés ne peut pas être délibérée, mais il n'est pas nécessaire de l'empêcher spécifiquement en tant que conséquence de la guerre.
Les représentants des organisations libérales israéliennes ne sont pas d'accord. Agit Ofran travaille pour le projet Settlement Watch du mouvement israélien Peace Now.
Il ne s'agit pas d'un déplacement volontaire de personnes. Il s'agit d'un déplacement ou d'un transfert. C'est un crime de guerre et c'est immoral. Si vous rendez la vie des gens misérables et qu'ensuite vous dites qu'ils veulent quitter l'endroit, ce n'est pas comme s'ils partaient volontairement.
De nombreux participants au groupe parlementaire de la Knesset ont demandé qu'Israël rétablisse les 21 colonies juives de la bande de Gaza qui ont été évacuées en 2005 lors du retrait unilatéral d'Israël de ce territoire. Daniela Weiss est une responsable de colons juifs de longue date qui se dit prête à partir à Gaza.
The people of Israel are ready to fight.
Le peuple d'Israël est prêt à se battre et à mettre en œuvre l'idée du président Trump d'émigration des habitants de Gaza.
Le Monde aujourd'hui, stop et fin. Merci d'avoir écouté. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.